Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre Sèvres. Je suis Bruno Saintot, jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence qui fait partie d'un cycle de colloques et de conférences intitulé « Médecine, bioéthique et société ». Alors, je voudrais remercier la petite équipe de préparation, le docteur Alain Tenaillon, Jean-Noël Fissinger, le professeur Corvol et Jean Pic, de nous aider dans la préparation de ces colloques et conférences. Le sujet de ce soir, le burn-out, correspond particulièrement bien aux orientations de ce cycle médecine, bioéthique et société, puisqu'il se situe à la convergence de problématiques physiques et psychiques, médicales, managériales, institutionnelles, sociétales et politiques, et qu'il concerne tout à la fois les dimensions personnelles, interpersonnelles, institutionnelles et politiques de nos vies. La complexité du sujet vient de ce que ces problématiques et ces dimensions forment un système et qu'il est parfois difficile de les distinguer et de les articuler. Nous avons privilégié les approches psychiatriques et sociologiques, mais il y en aurait bien d'autres qui pourraient, notamment on peut l'espérer, apparaître dans les questions. C'est un choix, il a fallu se limiter. Je remercie les professeurs Jean-Pierre Ollier et Christian Baudelot de nous aider à clarifier quelques définitions, voilà, et aussi enjeux, en répondant à leur manière aux trois questions: quelle cause, qui est menacé, et aussi comment réagir. Merci beaucoup, docteur Alain Tenaillon, de nous présenter maintenant cette soirée et de présenter aussi nos intervenants. Bonne conférence et bon débat.
Merci Bruno. Donc Alain Tenaillon, moi j'étais chef de service de réanimation, je ne connais rien au burn-out, je suis un candidat parfait, mais il en faut pour diriger une séance comme ça et ne pas prendre parti entre les divers éléments. Donc deux conférenciers, Jean-Pierre Ollier, qui est professeur émérite de psychiatrie à Paris 5, ancien chef de service de psychiatrie au centre hospitalier Sainte-Anne, et membre de l'Académie de médecine où il vient de coordonner un rapport sur le burn-out, ce qui traduit bien que cette entité touche un peu tout le monde et qu'elle est à la mode en tout cas. Christian Baudelot, de l'autre côté, professeur émérite de sociologie au département des sciences sociales de l'École normale supérieure, co-auteur de nombreux livres, dont l'un qui s'appelle « Travailler pour être heureux », qui donnera peut-être un peu d'optimisme par rapport à ce que nous allons dire sur le burn-out. Je commencerai par dire « burn-out, burn-out, burn-out », comme le général de Gaulle disait « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». On en parle partout, on a l'impression d'un nouveau fléau dans l'entreprise, mais en y regardant bien, cela dépasse largement ce domaine pour toucher le monde associatif, celui de l'aide à la personne, celui de la santé, mais aussi le milieu familial, voire les enfants. Or, si les mots sont expressifs, derrière le mot « burn-out », on voit bien, même si c'est en anglais, que la personne se consume progressivement et inexorablement, jusqu'à disparition presque totale de son énergie vitale, sans aller jusqu'au suicide en règle, et sans recharge possible, comme les allumettes que vous avez pu voir sur la petite affiche qu'on vous a donnée. Hop, ça s'éteint un petit peu. Le mot français, lui, est un peu moins imagé, et il s'appelle donc épuisement professionnel, ce qui semble traduire burn-out de façon différente. En tout cas, lui, est plus pragmatique, car il met directement en jeu le monde du travail. Pourtant, en y regardant de plus près, le burn-out est très difficile à définir, et on y mélange souvent beaucoup de choses, effets de mode, cadre misère de la souffrance dans lequel on va inclure tout ce qui est souffrance au travail, on le verra. Est-ce une nouvelle maladie psychiatrique liée au travail, faisant le pendant de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculosquelettiques pour la partie somatique dans l'entreprise, justifiant de définir comme une maladie professionnelle, on le verra, c'est pas évident. Est-ce les difficultés liées au travail qui ne font que révéler des affections psychiatriques sous-jacentes, c'est pas non plus évident. Quelle est la part du surinvestissement que l'on semble attribuer systématiquement à ce système? On le verra. Le professeur Jean Ollier aura donc la tâche de clarifier la face cachée et historique de ce médical et médicale de ce problème. Si l'on quitte le monde strict de la médecine pour se tourner vers celui de l'entreprise, les médecins du travail, les DRH, les sociologues du travail, pour eux, l'entité épuisement au travail semble correspondre à une réalité dans le cadre de ce qui est convenu d'appeler la souffrance au travail ou les risques psychosociaux, même si, là encore, la définition n'est pas parfaite. Ce phénomène y est vécu comme important, car il risque non seulement de déstabiliser totalement des personnes, souvent parmi les plus investies, mais aussi de déstabiliser entièrement des unités de fonctionnement, voire certaines entreprises. Il est donc devenu capital dans de nombreuses entreprises de dépister et de reconnaître ce problème, mais surtout de mettre en place des actes de prévention. Comment, pourquoi ce problème de burn-out est-il apparu depuis les années 80-90? Quel rôle a le nouveau management dans les entreprises? Comment lutter contre? Quel changement éthique cela impose dans l'entreprise? Ce sera le travail de Tristan Baudelot d'essayer d'aborder ces problèmes. In fine, grâce à votre discussion, on devra, comme l'a dit Bruno, répondre aux trois questions qui ont été prévues. À vous, mon cher, vous avez 25 minutes.
Merci. 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 Et tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très heureux d'être ici ce soir et très honoré, mais je sais que je dois cet honneur à la bienveillante amitié de Jean-Noël Fissinger en particulier, qui, à l'Académie de médecine, a été intéressé particulièrement, sans doute, par le rapport que Patrick Légeron et moi-même avons proposé il y a quelques semaines ou quelques mois, après plusieurs mois d'audition, de travail et de réflexion sur le sujet. Alors, merci à Alain Tenaillon d'avoir rappelé que je suis psychiatre. Personne n'est parfait. Ma mère se demande encore pourquoi je suis devenu psychiatre, probablement. Elle qui pensait que je deviendrais médecin, tout simplement. Je suis psychiatre et ma pratique à l'hôpital Sainte-Anne, c'est évidemment de rencontrer des personnes qui viennent demander un avis diagnostique et une aide à propos de cette spécialité qui n'est pas tout à fait comme les autres, la psychiatrie, je veux dire, puisqu'elle a à voir avec des choses qui ont trait tout à la fois au cerveau, mais aussi à notre vie sociale, à nos interactions sociales, et puisque la symptomatologie de ces maladies s'exprime préférentiellement dans les interactions entre l'individu et son environnement. Et dans ce champ, il y a en particulier ce que l'on appelle les maladies dépressives qui sont encore aujourd'hui peu facile à comprendre. Et si vous permettez, je vais m'y arrêter un peu tout à l'heure. Alors, on a posé le sujet. Pourquoi ce sujet ce soir au Centre Sèvres? Eh bien, parce que depuis 20 ou 25 ans, on s'inquiète, et en particulier, donc, le Bureau international du travail, en 1993, a alerté sur ces questions du stress au travail, du harcèlement, du burn-out professionnel et des risques psychosociaux. Et pourtant, la problématique n'est pas si nouvelle, puisque dès 1959, un psychiatre français décrivait, à mon sens, remarquablement cette problématique de l'épuisement professionnel. Que disait Claude Weil? Il disait « L'état d'épuisement est le fruit de la rencontre d'un individu et d'une situation ». L'on doit de se garder des simplifications abusives. Ce n'est pas simplement la faute à telle ou telle condition de milieu, pas plus que ce n'est la faute du sujet. Et il me semble donc, pour moi, médecin, il me semble que là, tout est dit à propos de cette notion d'épuisement qui peut aller jusqu'à cette maladie ou à ces maladies que sont les dépressions. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur cette notion de dépression qui n'est pas facile à comprendre, puisqu'il s'agit de maladies qui modifient la façon de se comporter, la façon de penser, la manière d'aimer, donc de la personne, en même temps que se manifestent des symptômes physiques, des symptômes somatiques, les troubles du sommeil, des troubles du transit digestif, donc des manifestations physiques, des douleurs physiques, donc, et la dépression, les dépressions sont de vraies maladies. Et tout de suite, il faut que nous nous entendions. Lorsque je vais parler de dépression, je ne parle évidemment pas du coup de blues, de la déprime que nous connaissons tous à certains moments de nos vies. Mais je parle donc de maladies, de pathologies, de troubles caractérisés d'un point de vue clinique par un ensemble de symptômes qui vont de la fatigue à l'état de sidération complète, qui sont la douleur la douleur psychique, le fait de se sentir extrêmement triste, désespéré, le pessimisme, donc les idées noires, et éventuellement les idées de suicide, et possiblement le suicide, puisque la dépression est la principale cause de mortalité par suicide, mortalité qui reste encore très élevée dans notre pays, puisqu'elle est au-dessus de 10 000 morts par an, bien plus que les accidents de la route dont on nous parle régulièrement sur les postes de radio. Donc, en 1959, Claude Weil proposait de retenir comme possible facteur déclenchant d'une maladie dépressive l'épuisement professionnel. Et il poursuivait, tout se passe comme à la banque. Chaque individu possède un certain capital. S'il vient à le dépasser, la fatigue l'en avertit. S'il continue, même le plus petit effort va le conduire à la faillite. Effectivement, s'il n'y a plus de capital, le plus petit chèque pose problème, alors que tant qu'il y avait du capital, même les chèques importants, même les efforts importants pouvaient être honorés, pouvaient être accomplis. Et donc, il disait, cherche-t-il des expédients ? Eh bien, ce sont le café, le dopage, l'alcool surtout. Et vous voyez que en 1959, le mot burn-out n'était pas né, mais la description d'une réalité clinique était remarquablement faite. Et rappelez-vous la phrase de Claude Weil, attention à toute simplification trop abusive. Alors, décidément, c'est plus tard qu'est apparu le mot burn-out créé par un psychanalyste, Freudenberger, qui définissait le burn-out de la manière suivante. Les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe reste plus ou moins intacte. Et donc, il proposait ce terme de burn-out qui, comme on vient de le dire, ne trouve probablement pas de meilleure traduction que épuisement, on pourrait dire cramé, hein, mais donc épuisé. Et puis, celle qui a travaillé sans doute le plus attentivement cette question du burn-out à partir des années 80 est la psychologue Maslach qui a décrit trois paramètres du burn-out qu'on va voir donc, et elle dit le burn-out professionnel est un état physiologique donc inscrit dans le corps et psychologique résultant de l'accumulation de facteurs de stress professionnel. Alors la symptomatologie du burn-out, eh bien, on peut la résumer à trois aspects. Elle a été initialement décrite à propos de personnes qui travaillaient dans des contextes professionnels nécessitant un investissement professionnel fort. Et moi, je retiens notamment les situations, enfin, elle avait pris notamment des personnes qui travaillaient dans des free clinics pour soins à des toxicomanes. Et on sait que les soins toxicomanes ne sont pas la chose la plus facile au monde, et a fortiori dans des structures aussi légères telles que celles qui avaient été installées aux États-Unis, notamment à New York, à partir des années 60, à la fin des années 60. Et donc, les trois principaux symptômes, c'est l'épuisement émotionnel. Donc, la personne se sent absolument vidée, comme l'a décrit Freudenberger, donc, sur le plan émotionnel. Ce qu'on appelle le cynisme ou la dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait d'avoir une nécessité de retrait par rapport à l'investissement professionnel, par rapport aux collègues du monde professionnel. Et la troisième chose, c'est la réduction de l'accomplissement professionnel dans le sentiment que tous les efforts faits pour répondre à ces objectifs de valeur, d'intérêt professionnel, que tous ces efforts sont vains, ne sont pas accessibles ou ne sont pas suffisamment reconnus. Alors, Claude Weil l'avait dit, évidemment, cette situation de détresse, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut désigner le burn-out, c'est une situation de détresse. Cette situation de détresse est susceptible de conduire, de déboucher sur des complications. Tout d'abord, les troubles anxio-dépressifs, donc le fait que la personne éprouve les symptômes d'anxiété que sont la tension intérieure, l'amplification péjorative des stimuli de l'environnement, la sensation donc un peu de catastrophe imminente, et puis la dépression, je vous l'ai dit, donc cette difficulté à décider, à agir, cette tristesse, cette douleur psychique, et puis l'ensemble, donc les idées noires et l'ensemble des symptômes somatiques. Donc un des problèmes, évidemment, que nous rencontrons, nous médecins, c'est la difficulté à tracer la limite entre état de détresse et maladie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne doit être considérée comme étant simplement un état de découragement, voire de désarroi, ou bien qu'elle doit être considérée comme étant dans un état pathologique, justifiant un diagnostic médical, ce qui n'est pas très fascinant, et surtout, derrière, des thérapeutiques en adéquation avec ce diagnostic. Et ça, c'est une vraie difficulté pour ma spécialité, tout au moins en théorie. C'est une vraie difficulté parce que il n'y a pas de marqueurs biologiques qui permettent assurément aujourd'hui de faire la différence, de marquer la différence entre la détresse d'une part et l'état pathologique, la maladie d'autre part. Et cette difficulté est telle, est-ce que je peux me hasarder à faire cette digression, j'espère que je ne vais pas vous troubler, elle est telle cette difficulté que la Haute Autorité de Santé a étonnamment dit que dans les dépressions d'intensité légère, il fallait se contenter d'un soutien psychologique ou d'une psychothérapie. Ce qui est complètement incongru, aberrant, illogique, puisque tout état dépressif pathologique relève tout à la fois d'un traitement médicamenteux antidépresseur et d'un soutien psychologique, voire d'une psychothérapie plus codifiée. Cette position de la Haute Autorité de Santé pour les dépressions dites d'intensité légère dit tout simplement la difficulté à tracer la limite et le souci à l'instant où cette recommandation a été prise, le souci de ne pas aggraver ce que l'on appelle indûment dans notre pays la surconsommation de médicaments antidépresseurs. Rassurez-vous, il n'y a pas de surconsommation de médicaments antidépresseurs en France si l'on rapproche les chiffres de la morbidité d'une part, et les chiffres de la consommation d'autre part. Toutes les études, toutes les enquêtes disent que ce soir, environ 6% d'entre nous répondons au diagnostic de maladie dépressive. Toutes les enquêtes en France montrent que aujourd'hui, environ 5,5% des Français ont consommé ou vont consommer un médicament antidépresseur. Si l'on s'en tient à ces chiffres, tout est parfait. La question, et je l'ai un peu introduite en vous disant la difficulté des limites, la question est, sont-ce, si je puis dire, les malades qui reçoivent les antidépresseurs, ou bien est-on dans une situation telle que les antidépresseurs sont donnés à des personnes qui n'en relèvent pas et ne sont pas donnés à des personnes qui en relèvent? Effectivement, plus de la moitié des malades déprimés ne sont pas correctement traités. Donc il y a un gros problème, et ce problème, on le retrouve à propos du burn-out, puisque il va falloir à un moment savoir reconnaître le passage de la fatigue, plus ou moins justifiée par l'environnement professionnel, du désarroi, plus ou moins induit par l'environnement professionnel, à un état pathologique, telle qu'une pathologie anxieuse ou une pathologie dépressive. Deuxième complication, les conduites addictives. Claude Weil le disait, l'alcool, le café, peut-être aujourd'hui le cannabis, surtout s'il est légalisé demain matin. Troisième complication, les douleurs physiques qui, évidemment, vont engendrer, et on a évoqué les TMS, les troubles musculo-squelettiques, les douleurs physiques. Et ça, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant, pourquoi ? Parce que la neuroimagerie nous apprend aujourd'hui à connaître un peu mieux les réseaux haut placés de la douleur, les neurones qui portent notre capacité à éprouver de la douleur. On connaît bien tout ce qui se passe dans la moelle épinière, tout ce qui se passe assez en périphérie. On connaît moins bien ce qui se passe au niveau des centres d'intégration de la perception douloureuse. Mais ce que montre aujourd'hui la neuroimagerie, c'est que les réseaux neuronaux qui portent la douleur physique, la douleur somatique, sont les mêmes ou sont très proches des réseaux neuronaux qui portent la douleur psychique. Comment peut-on affirmer cela ? C'est simple. Si je mets mon voisin dans une IRM et que je me mette à le pincer, à tout ça, je vais voir au niveau de l'IRM, je vais voir les réseaux neuronaux de la douleur clignoter, s'allumer, et on va voir un IRM que donc effectivement, il a une capacité à percevoir la douleur. Comment est-ce que je peux provoquer, allumer les réseaux neuronaux de la douleur psychique ? Je vais prendre un exemple. Je prends le même, je le mets dans la même machine, et sans l'avoir prévenu, je lui propose de participer à un jeu à trois. C'est-à-dire qu'il a un écran et il y a des échanges avec deux joueurs virtuels. Et petit à petit, les deux joueurs virtuels progressivement omettent de jouer avec lui. Il le place en situation d'exclusion. Et à ce moment-là, sans qu'il s'en aperçoive, son système d'alerte douloureuse psychique se met en marche. Et évidemment, nous sommes très inégaux devant la douleur physique. Il n'est pas douloureux, lui, devant la douleur physique. Nous sommes très inégaux et nous sommes aussi très inégaux pour la douleur psychique. Nous sommes très inégaux face à des situations d'exclusion éventuellement en milieu professionnel. Nous sommes très inégaux devant des situations de perte ou de déclassement éventuellement en situation professionnelle. Je dis que nous sommes inégaux évidemment parce que c'est établi. À titre d'exemple, les malades dépressifs qui ont des phénomènes douloureux, s'ils sont sortis de la dépression, si on essaie de stimuler, de mesurer leur seuil de douleur psychique, il est très nettement inférieur au seuil de la douleur psychique des malades déprimés ayant des antécédents de suicide ou de conduite suicidaire. Donc nous sommes inégaux pour cela aussi. Donc il est intéressant de voir qu'une symptomatologie effectivement du burn-out peut débuter, ça Majlach et Freudenberger l'avaient bien décrit, peut débuter par des phénomènes de douleur, mais ces phénomènes de douleur physique évidemment peuvent être très mariés avec les phénomènes de douleur psychique et donc avec les problématiques de dépression. Et puis il y a évidemment toutes les maladies du stress que l'on connaît, que dans la salle certains que je regarde connaissent beaucoup mieux que moi, l'hypertension artérielle, etc. Alors, quels sont les facteurs de stress professionnel généralement retenus par les spécialistes de la psychologie du travail ou de la psychiatrie ou de la médecine du travail ? Ce sont les exigences du travail, le travail avec des exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et le manque de marge de manœuvre, le manque de soutien social et de reconnaissance au travail, les conflits de valeurs, et lorsque le sujet a le sentiment que son investissement ne correspond pas ou ses attentes ne correspondent pas à ce que l'entreprise développe, et évidemment l'insécurité de l'emploi et du travail. À ce jour, on ne sait pas mesurer le poids de chacun de ces facteurs. On ne sait pas dans quel cas les exigences vont être beaucoup plus délétères ou dans quel cas, par exemple, le manque de reconnaissance au travail va peser. Et comme je suis médecin, je ne résiste pas, et vous allez m'en pardonner, j'espère, je ne résiste pas à dire qu'on s'interroge aujourd'hui beaucoup sur le burn-out chez les étudiants en médecine, et surtout chez les médecins, chez les professionnels, évidemment, chez l'ensemble des professionnels, chez les infirmières. Et lorsque on voit le salaire et la reconnaissance professionnelle pour les infirmières, pour les médecins, enfin pour les professionnels du soin, on peut comprendre cette menace de burn-out. Et d'ailleurs, le Conseil national de l'Ordre des médecins est en train de mettre en place un observatoire sur la santé des médecins parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de suicides des médecins en France, on ne sait pas exactement le nombre de dépressions, de ruptures dépressives, le nombre de médecins en conduite addictive, bref, en situation de complications du burn-out. Alors, comme on l'a déjà dit, donc, et puis l'orateur suivant, lui, va insister, bien sûr, sur les facteurs environnementaux, mais il rappellera aussi que les facteurs personnels, évidemment, sont des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple, la difficulté à gérer les émotions, le perfectionnisme, la propension à l'hyperactivité. Ces éléments, perfectionnisme, propension à l'hyperactivité, expliquent qu'on retrouve souvent dans les antécédents des personnes en burn-out le surinvestissement professionnel, ce qu'on appelle le work-alcoolisme, et donc le fait que le burn-out soit en quelque sorte une conséquence du fait d'avoir trop donné à son travail. Évidemment, je vous aide à conclure, comme moi, qu'il est plus glorieux de dire « je fais un burn-out », entre les lignes ou dans le texte « j'ai tellement donné, j'avais tellement investi pour mon entreprise, pour mon travail, que me voilà en burn-out, je suis un héros de la guerre du travail », c'est beaucoup plus glorieux que de dire « je suis un malheureux déprimé, triste, fatigué, incapable d'assumer mon travail, donc un faible ». Et il me paraît que l'usage aujourd'hui du terme burn-out, en place du terme dépression, prend racine au moins en grande partie dans ce lien entre hyper-investissement professionnel et burn-out. Et puis, autre élément qui est un facteur, ce sont les antécédents psychopathologiques. Et bien entendu, la personne qui a déjà eu un trouble dépressif, qui a déjà eu des troubles anxieux, qui a déjà eu des antécédents de pathologie addictive, est plus à risque de se trouver en situation de détresse lorsqu'elle sera confrontée aux exigences du travail. Alors, maintenant, je vais vous faire un aveu. C'est que je suis en train de vous parler de quelque chose que la médecine ne connaît pas. Le burn-out. La médecine ne connaît pas. Dans les classifications médicales d'aujourd'hui et de demain, alors après-demain, je ne sais pas, mais d'aujourd'hui et de demain, il n'y a pas place pour le burn-out. Nous avons, en gros, deux grandes classifications des maladies psychiatriques. D'une part, la classification de l'Organisation mondiale de la santé et d'autre part, la classification de l'Association américaine de psychiatrie qu'on appelle le DSM. Vous avez peut-être entendu ce mot, le Diagnostic and Statistical Manual. Donc, ces deux classifications, donc, ne retiennent pas ne retiennent pas le mot burn-out. Donc, aujourd'hui, le burn-out ne figure pas dans la liste des maladies. Je ne parle pas des maladies professionnelles, on n'en est pas là. Il ne figure pas dans la liste des maladies aujourd'hui. Je redis bien que ça ne... Disant cela, je n'exclus pas, et les classifications n'excluent pas, qu'il puisse y avoir des situations de détresse qui conduisent, qui nécessitent une réflexion médicale, voire une aide médicale. Et d'ailleurs, j'ai pris le DSM parce qu'il est la classification américaine, pardon, parce qu'elle est la plus récente. Et lorsque, donc, on n'y trouve pas burn-out, mais qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve que le médecin, le psychiatre en l'occurrence, peut être amené à rencontrer, à être sollicité par quelqu'un qui rencontre des problèmes liés à sa profession. Ça n'est pas précisé davantage. Il est dit ailleurs qu'il peut y avoir des troubles liés à des facteurs de stress. Ce sont des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Il y a une catégorie un peu compliquée, on va passer pour ce soir si vous voulez bien, parce que déjà que la distinction entre détresse et pathologie peut conduire à de longues discussions. Ce que les classifications appellent le trouble de l'adaptation, en fait, c'est une dépression à minima, on va dire. Et puis donc, les troubles anxieux, les troubles dépressifs. Mais, point de burn-out dans les classifications médicales, aujourd'hui, et je me suis renseigné, je leur ai posé la question, aussi bien du côté de l'OMS que du côté des pilotes de la classification américaine, ils m'ont dit qu'il n'était pas question pour l'instant d'introduire le mot burn-out dans les classifications médicales. Mais donc, voilà la situation. Alors, évidemment, lorsque on parle d'un trouble, d'une pathologie, les questions se posent la question, l'épidémiologie. Et est-ce qu'il y a des indices paracliniques? L'épidémiologie, on a lu 3 millions de burn-out, je ne sais pas si on peut dire ça, de sujets à burn-out en France. On a lu 100 000. Dans sa dernière estimation à ma connaissance, l'Institut national de veille sanitaire estime qu'environ 30 000 personnes en France pourraient être en situation de détresse correspondant à un état de burn-out. Donc le problème est c'est une vraie réalité. Hein. C'est donc 30 000 personnes, évidemment, ça n'est pas rien. Donc, mais ces données de l'épidémiologie, évidemment, ne peuvent pas être précises, étant donné la difficulté à borner le phénotype clinique dont il s'agit. Du point de vue épidémiologique analytique, il y a des interrogations, il y a des résultats qui sont pas forcément concordants. Il pourrait y avoir un effet protecteur de l'âge. Je serais moins à risque de burn-out que madame, mademoiselle ou monsieur. Un effet du genre, alors, pour certains, selon certains résultats, la femme serait plus à risque, selon d'autres, les hommes seraient plus à risque. Le célibat serait un facteur de fragilisation. Les indices paracliniques. Je vous ai parlé de la dépression, je vous ai dit qu'il n'y avait pas à ce jour de marqueur biologique du diagnostic. Mais rassurez-vous, si je puis dire, enfin encore si c'est rassurant, je ne suis pas sûr que ça le soit, la dépression est une maladie psychique et physique. C'est-à-dire que concomitamment à une maladie dépressive, il y a des anomalies. Il y a en premier lieu des anomalies de l'architecture du sommeil. C'est-à-dire que la personne dorme, ait le sentiment de dormir beaucoup, de ne pas dormir beaucoup, d'avoir un sommeil correct ou pas correct. Si on enregistre son sommeil de manière électroencéphalographique, il y a une perturbation des rythmes du sommeil. Vous savez que pendant notre sommeil, nous avons à peu près 4 ou 5 phases qui se répètent, qui vont du sommeil superficiel au sommeil plus profond, puis au sommeil paradoxal, et puis de nouveau, à peu près toutes les 2 heures, de nouveau sommeil superficiel, puis jusqu'au sommeil profond paradoxal. Pour le burn-out, on ne sait pas. Deuxième élément, concernant la dépression, il y a des anomalies de plus en plus, qui retiennent de plus en plus l'attention, des anomalies de certains marqueurs de l'inflammation pour le burn-out, les résultats, les quelques résultats qui ont été publiés sont peu évidents, un tout petit peu, ils partent un peu dans tous les sens. J'aurais dû commencer par le premier. Troisièmement, il y a les indicateurs du stress, ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-pituitaro-adrénalien, qui surrénalien, qui donc dans la dépression qui est perturbée. On sait qu'il y a des marqueurs, qu'il y a une hyperactivation de cet axe, qu'il y a des modifications de sensibilité des récepteurs aux hormones du stress. Sur le burn-out, on ne sait pas. Et donc, voilà, aujourd'hui, donc, pour la médecine, le burn-out reste une belle inconnue ou une interrogation. Et vous avez entendu, comme moi, que certains politiques envisagent ou défendent l'idée que le burn-out devienne maladie professionnelle. Il faudrait d'abord qu'il devienne, selon moi, qu'il devienne éventuellement maladie et que l'on voit ensuite s'il est légitime qu'il devienne maladie professionnelle. Mais les comités médicaux ont déjà, de temps en temps, reconnu certaines situations de burn-out comme des états pathologiques. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. La médecine, donc je disais, a du mal à définir le burn-out en tant que pathologie à part, bien définie dans le milieu de la psychiatrie. Il n'en reste pas moins, et Christian va essayer de vous le démontrer, qu'en entreprise, c'est un vrai problème et qu'il faut le prendre en compte. Voilà. À toi la parole, Christian, pour 25 minutes également.
D'accord, merci beaucoup. Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et mon propos, enfin, je veux dire, de sociologue va être un peu différent de celui du psychiatre, parce que je comprends et je suis extrêmement intéressé par le fait que la psychiatrie n'identifie pas le burning out à une pathologie psychiatrique particulière. Il n'y a pas de marqueur. Et c'est tout à fait intéressant aussi que la psychiatrie hésite parfois sur la façon de le définir. Et de fait, si vous voulez, je pense qu'il faut tenir compte de ces difficultés et que plutôt que de se fixer sur le burn-out en tant que tel, mieux vaut élargir le champ et associer ce qu'on appelle le burn-out à d'autres phénomènes qui désignent des réalités assez voisines et qui relèvent apparemment des mêmes causes. Alors, dans l'ordre, souffrance au travail, risques psychosociaux au travail, suicide au travail et donc burn-out. Et toutes ces catégories et toutes ces données, tous ces faits sont apparus pratiquement à la même époque dans les différentes sociétés, en particulier en France. Et donc ces phénomènes ont en commun de désigner des troubles de la santé physique et mentale qui sont apparus récemment quand on nous l'a dit dans les années 74 à peu près, ou 70 aux États-Unis et en France, je veux dire, ils sont apparus récemment autour de 70, ils ont été désignés autour de 70 et ils sont donc apparus, et en même temps, ils sont liés à des effets non désirés de mauvaises conditions de travail. Alors, ils sont graves, puisque ça conduit souvent à des dépressions profondes, pouvant aller jusqu'au suicide. Alors, ils sont d'abord signalés, vous l'avez rappelé, et c'est important de le dire, chez des personnels de santé, c'est-à-dire des infirmières ou des personnels de soins palliatifs, soins toxicomanes, etc., et qui sont toutes des professions de service, je veux dire, de santé, qui se déroule dans un climat de fort stress et surtout qui réclame une grande demande affective, compassionnelle et émotionnelle. C'est-à-dire que ce sont des professions qui impliquent la personne au plus profond d'elle-même et qui peuvent aussi être très douloureuses pour elle puisque, bon, dans le cadre des soins palliatifs, régulièrement, je veux dire, les personnes auxquelles on commence à s'attacher meurent. Donc, je veux dire, et c'est là que ça a été fait. Alors, Ils sont récents. Alors moi, en tant que sociologue, si vous voulez, je suis intéressé par les dates. Ces phénomènes apparaissent tous en même temps. Et ils apparaissent en France autour, je veux dire, des années, à partir des années 75, c'est-à-dire au moment du début d'une crise économique et sociale profonde dont nous ne sommes toujours pas sortis, qui a été inaugurée par les chocs pétroliers. C'est à partir des années 75, l'époque où le chômage commence à croître, mais aussi et très fortement le taux de suicide, et il y a tout un ensemble d'autres indicateurs, enfin le chômage des jeunes, les difficultés des jeunes, etc. Bon, et il y a tout, en même temps, il y a énormément, on va le voir, de modifications très très importantes qui interviennent dans le management des entreprises et dans la façon de gérer la force de travail, le personnel et les valeurs, enfin je veux dire, des entreprises et ce qu'on leur demande aussi. Bon. Alors, c'est d'une certaine façon nouveau, mais en même temps, enfin dans la forme qu'ils prennent, mais ces problèmes et ces troubles liés aux conditions de travail s'inscrivent logiquement dans l'histoire longue des maladies professionnelles. C'est-à-dire que le travail n'a toujours, enfin n'a jamais été une allée longue tranquille, parsemée de roses, et n'a jamais cherché à proprement parler à faire le bonheur des hommes. N'oublions pas, enfin je veux dire que le fait de travailler était d'abord un châtiment divin pour punir Adam et Ève d'avoir fait le péché originel. Bon, ensuite, le mot travail en France provient du latin tripalium, qui était un instrument de torture dont on n'a pas de dessin, mais qui devait être absolument horrible. Et donc, si vous voulez, il ne faut pas tellement s'étonner non plus. Et que, d'autre part, le fait que le travail puisse être agréable, intéressant, etc., c'est aussi très nouveau. Et ça coïncide aussi, vous allez le voir, avec ces moments-là. Mais au XIXe siècle, il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui, bon, dont les ouvriers se révoltaient ou n'étaient pas contents. Il y en a un en particulier qui disait à ses ouvriers qu'il exploitait, surexploitait avec des journées de travail extrêmement longues, du travail des femmes et des enfants, etc. Il leur disait, écoutez, si vous n'êtes pas bien dans la poêle à frire dans laquelle je vous ai mis, vous n'avez qu'à sauter dans le feu. Bon, donc vous voyez, on est loin, bon. Et donc le travail industriel a souvent nui et très gravement nui à la santé de ses travailleurs. Et lorsque le corps humain était l'instrument principal de travail, il a d'abord atteint les corps. Alors, bon, silicose et mineure, cancer divers de toutes sortes, etc., troubles musculo-squelettiques, etc., la liste est très très longue. Et on observe la même chose, si vous voulez, c'est-à-dire que les entreprises, pendant extrêmement longtemps, et elles continuent, ont toujours refusé, le plus longtemps possible, d'établir un lien de causalité entre les maladies professionnels de leurs salariés et l'organisation du travail. Et pendant très longtemps encore, enfin je veux dire, l'amiante et les dégâts de l'amiante ont été imputés au fait que ça atteignait des fumeurs. Bon, donc si vous voulez, c'est un combat permanent et on le retrouve aussi au niveau, je veux dire, de le fait de reconnaître ou pas reconnaître comme des choses existantes toutes ces nouveaux troubles physiques. Bon. Et donc le travail manuel diminuant dans des proportions considérables au profit du travail intellectuel, c'est désormais le psychisme qui vient être altéré par le travail. Donc si vous voulez, c'est une continuation logique d'un certain nombre de constants. Alors, les dernières années du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui ont accéléré énormément du point de vue de la gestion de la force de travail un mouvement qui avait commencé dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Et certains entrepreneurs ont très vite compris que si leurs salariés n'adhéraient pas profondément aux buts, aux objectifs, aux valeurs, etc., de l'entreprise, de la production, ils travaillaient d'une manière beaucoup moins efficace. Et donc, il y a eu tout un ensemble d'efforts qui ont été réalisés tout au long, enfin, avant la guerre, mais surtout après la guerre, pour rendre les conditions de travail des salariés soutenable, plus agréable, plus confortable. Et aux alentours des années, après les années 60, progressivement, s'est élaborée une nouvelle forme de gestion de la force de travail, qui a commencé par les cadres, mais qui va après s'étendre à beaucoup d'autres salariés, qui consiste à essayer de développer, à impliquer, si vous voulez, à impliquer personnellement beaucoup plus les salariés qui ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire à, alors d'abord, augmenter l'autonomie, c'est-à-dire que les laisser libres, je veux dire, d'être maîtres, je veux dire, de leur l'organisation de leur travail, de leur donner plus de marge de liberté, et en même temps de trouver dans leur, je veux dire, de travail, une façon de s'exprimer, de se réaliser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 90, le vocabulaire change beaucoup. C'est-à-dire que il y a une plus grande importance qui est accordée au sujet et à ses affects. C'est-à-dire que on valorise le travail comme une source d'épanouissement personnel. C'est complètement nouveau. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été ça avant. On le critique pour les souffrances qu'il engendre. Bon, avant, on les supportait. Et le discours sur le travail s'inscrit dans un registre beaucoup plus psychologique. Et par exemple, la notion d'épanouissement s'associe désormais à celle de l'investissement. On demande aux salariés, on demande aux travailleurs de s'investir dans leur travail. Et que s'ils s'investissent bien, ils vont s'épanouir. Et postérieur à 68, l'épanouissement introduit une dimension psychologique nouvelle parce que elle suppose un lien de satisfaction et l'identité du travailleur. C'est-à-dire être satisfait de son travail signifie qu'on peut y réaliser des traits de sa propre identité, être soi-même, y développer ses compétences. Et donc, un bon travail, c'est celui qui permet à une personnalité de s'affirmer. Affirmez-vous, etc. Et un métier doit être intéressant, moins par les bénéfices matériels qu'il procure, mais par ses profits symboliques. C'est-à-dire un métier intéressant, c'est un métier qui excite, c'est un métier qui stimule, qui permet à celles qui l'exercent de créer, d'innover, de se réaliser, de s'éclater. Enfin, il s'éclate dans son travail, etc. Bon. Et on se rapproche à ce moment-là un peu du bonheur de l'artiste ou de l'écrivain. Et ça, c'est des tendances, enfin, je veux dire, extrêmement positives vers l'autonomie du travailleur et le fait qu'on lui attribue des compétences, une compétence, et on pense que l'ensemble de son capital personnel, individuel, de personnalité, va enrichir l'entreprise de ses compétences. Mais parallèlement à ça, on voit aussi monter d'autres exigences beaucoup plus prosaïques, compte tenu, je veux dire, de la compétition internationale, de la nécessité de produire, d'être meilleur que les autres, de vendre plus et à plus bas prix, etc. Et à ce moment-là, on a, à la même époque, la montée très forte de la précarité, la montée de la flexibilité et surtout la montée de l'intensification du travail. Et le travailleur était contrôlé, en amont ou pendant l'exercice de son travail par des contremaîtres ou des personnels de surveillance qui le contrôlaient son travail à mesure qu'il le faisait. Aujourd'hui, on passe de plus en plus, surtout avec l'informatique, à, je veux dire, des contrôles a posteriori, en particulier les caissières de supermarchés, mais beaucoup d'autres, enfin je veux dire que la plupart des métiers, ils sont confrontés, enfin mesurés, leur degré, leur performance sont mesurés aux résultats. Et ce contrôle s'améliore énormément. Et si bien que aujourd'hui, un nombre croissant de salariés se trouve dans les mâchoires, contradictoires d'une machine où on a d'un côté une plus grande autonomie, un fort investissement personnel et psychologique et une motivation personnelle extrêmement forte et investie. Et de l'autre côté, des contraintes très fortes, intensification du travail, etc. Et il y a un psychologue américain qui s'appelle Robert Karasek qui a formalisé cette tension avec un tableau tout à fait simple, en deux dimensions, Je veux dire, en abscisse, vous avez ce qu'il appelle la latitude décisionnelle, c'est-à-dire, est-ce que vous avez la possibilité de choisir et quelle est la liberté dont vous disposez dans votre métier pour organiser vous-même votre travail, les temps, la production, etc. Donc, à droite, elle est faible et à gauche, elle est forte. Donc, c'est un vecteur qui va là. Et en ordonnée, on a le niveau d'exigence, alors, qui vont de faible à forte. À ce moment-là, on a un tableau avec quatre cases. Et on voit que, je veux dire, la tension, si vous voulez, des exigences fortes avec une forte latitude décisionnelle, c'est-à-dire avec le terme activité, peut rendre les gens extrêmement heureux au travail. C'est-à-dire que, bon, ils bossent fort, il y a des fortes contraintes, mais ils sont libres de les réaliser, etc. Et inversement, dans l'autre côté, il y a une très faible latitude décisionnelle et des exigences extrêmement fortes. Et ce schéma est assez explicite, enfin est assez clair. D'autant que aujourd'hui, en général, et là je suis loin du burn-out, hein, je veux dire, ce sont les tendances générales, de la transformation actuelle de la gestion de la force de travail dans nos pays. Et il est loin, évidemment, de penser que tout ça va faire du burn-out, du suicide au travail, etc. Pas du tout. Mais je veux dire, voilà les tendances générales, le climat dans lequel oscillent, se sont situés les différents travailleurs. Et donc, il faut voir que aujourd'hui, avec l'informatique, avec le numérique, etc., les individus sont de plus en plus seuls. Il y avait autrefois, je montrerai ça tout à l'heure peut-être dans la discussion, une façon collective de résister aux pressions du patronat. C'était ce qu'on appelait le retrait, c'est-à-dire que c'était par exemple, en cas de cadence trop élevée, il y avait des freinages qui étaient décidés collectivement par les ouvriers, etc., et on faisait en sorte de ne pas trop produire pour ne pas changer, le mode de rémunération. Et aujourd'hui, les formes dans la défense du travail collective sont beaucoup plus difficiles puisque l'évaluation est entièrement individuelle, informatisée, et les individus sont seuls devant les objectifs qu'on leur fixe, qu'ils sont seuls. Alors ça, c'est très important parce que on va le voir, quand ils sont seuls et quand ils n'y arrivent pas, ça va se traduire très vite par et qu'ils sont motivés et qu'ils croient à ce qu'ils font, ils vont immédiatement investir beaucoup, être déçus de ne pas y arriver et d'imputer l'échec de leur travail à leur propre personne. Et à ce moment-là, devenir, entretenir un sentiment de culpabilité, je ne suis plus rien, je suis un raté sur tout, c'est de ma faute de partout, etc. Alors que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que la faute, enfin en tous les cas, les raisons de leur impuissance à faire ce qu'ils devaient faire tient au fait qu'on a chargé la barque et on leur a demandé, beaucoup d'efforts, d'investissement, etc. Et on leur a imposé des contraintes qu'ils sont absolument incapables et impossibles à réaliser. On est plutôt dans ce cas-là. Bon, deuxièmement, on est dans le cadre de la dictature du numérique, qui a des avantages considérables, mais qui tend à effacer progressivement les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire que on rentrait chez soi et on était loin de l'entreprise et c'est fini. Aujourd'hui, avec l'email, bon, les portables, etc., SMS, le travail vous joint partout et à chaque instant, dans le train, à la piscine, à tous les endroits. Vous êtes toujours en lien avec votre entreprise qui vous rappelle que, etc., bon, les jours, pas toujours fériés, etc. Bon, et ça augmente évidemment beaucoup la tension, la grande tension, bon. Et encore une fois, l'individu est seul devant sa conscience. Et donc, placé au début, les suicides au travail comme faisant partie de la constellation, faite à la fois par, la souffrance au travail et en même temps le burning out, etc. Bon. Alors, aujourd'hui, on en sait de plus en plus sur les suicides au travail, puisque c'est quelque chose de récent. Et c'est un phénomène totalement nouveau, qui n'existait pas auparavant, puisque, en général, on se suicidait enfin je veux dire dans des lieux privés, la plupart du temps. Et les suicides au travail étaient extrêmement rares, et ça parut au même moment. Alors, il y a eu en particulier énormément de suicides à France Télécom, ça a défrayé la chronique, et on en sait beaucoup plus maintenant, si vous voulez, sur les raisons pour lesquelles ces personnes sont suicidées, puisque, bon, il y a eu une médiatisation, il y a eu des enquêtes, il y a eu une enquête judiciaire, puisque le président de France Télécom, je dirais, a été inculpé, et maintenant, on en sait beaucoup plus. Alors, l'explication classique des psychiatres, je veux dire, ou même des chefs d'entreprise en ce qui concerne quand quelqu'un se suicide, c'est bon, il est fragile, il a une personnalité fragile, il a fait des tentatives de suicide, il était sous antidépresseur, il faisait des dépressions, etc. Et peut-être que les conditions de travail qu'on lui donne n'ont pas aidé la chose, mais 90% de la responsabilité provient de lui-même, de sa structure psychologique, de ce qu'il a vécu dans sa famille, etc. Bon. Alors là, pour une fois, on a pu, et il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, sur le profil psychiatrique ou psychologique des personnes qui se sont suicidées à France Télécom et dans d'autres entreprises. Il y en a eu à Peugeot, il y en a eu dans pas mal de trucs, etc. Bon. Et là, on a découvert quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'antécédents. Psychiatrique, il n'y avait pas d'antécédents, de tentatives de suicide, de dépression, etc. Par contre, ils se caractérisaient tous, la plupart en tous les cas, par des traits particuliers. Ils avaient une conception extraordinairement exigeante de la conscience professionnelle. C'est-à-dire que la conscience professionnelle, donc c'était un peu un trait aussi de caractère si l'on veut, mais ils étaient extrêmement investis dans leur travail et la plupart des personnes, le portrait si vous voulez psychologique de ces personnes faisait qu'ils étaient parmi les meilleurs, je veux dire, des salariés de l'entreprise au point de vue du niveau d'exigence de leur travail. Et ce dont ils souffraient, et alors en plus ils ont laissé beaucoup de lettres, beaucoup de téléphones, je veux dire, enfin on a beaucoup pu renseigner là, je veux dire, un peu l'ensemble des motivations qui sont dans la plupart des cas de suicide complètement absents. C'est-à-dire que quelqu'un qui se suicide emporte avec elle ses secrets ou on ne sait jamais beaucoup très bien vraiment ce qui est arrivé. Mais là, je veux dire, c'est beaucoup plus informé, beaucoup plus objectif. Bon, en plus, il y a eu une enquête judiciaire, enfin, qui a été révélée par la presse, etc. Bon. Et donc là, si vous voulez, les sociologues, mais pas seulement les sociologues, les psychologues du travail, les DRH, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont concernés de près par ces questions de burn-out, de suicide au travail, etc. Bon, ils reconnaissent parfaitement que, puisque tout le monde ne se suicide pas, il y a toujours des raisons pour lesquelles, supplémentaires pour lesquelles les uns se suicident et les autres pas, bien entendu. Il y a un facteur individuel, il y a un facteur psychologique. Mais, dans l'ensemble, ils sont tous d'accord pour considérer que les conditions de travail sont un facteur déterminant et le cadre que je vous ai décrit tout à l'heure avec la tension entre un investissement affectif, personnel, une mise en jeu de soi-même extrêmement forte et un système de contraintes qui ne peut que les décevoir joue un rôle tout à fait important. Et si les conditions de travail ne peuvent pas être la cause générale, unique, etc. de tous ces cas, elle n'y est pas pour rien. Quand même. Bon. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, maintenant, donc, si vous voulez, pour tous ceux qui touchent de près ces questions-là, même si on est d'accord pour le fait, pour considérer que, je veux dire, c'est mal défini, burn-out, ça ne veut pas dire grand-chose, enfin, qu'il n'y a pas une typologie de netteté extraordinaire, c'est bien au niveau du travail que ça se passe. Et la preuve, c'est que quand Lombard a été enfin viré, le PDG de France Télécom, et, je veux dire, remplacé par une autre équipe de direction, un autre PDG, etc., qui a pris des mesures, qui a reconnu les faits, etc., la vague de suicide suicide a, je veux dire, s'est effacé. Donc c'est pas du tout une fatalité. Et que, je veux dire, en instaurant des conditions de travail différentes qui, contraires, je veux dire, à celles qui étaient pratiquées avant, je veux dire, on est arrivé à le faire. Alors, pour finir sur des notes plus gaies, je veux dire, les conditions du bonheur au travail, on les connaît. On sait ce qui rend les gens heureux au travail. C'est d'abord la reconnaissance. C'est que leur travail doit être reconnu. Et reconnu, valorisé, reconnu. Et deuxièmement, on sait les facteurs qui rendent heureux. Les facteurs qui rendent heureux, c'est d'abord le sentiment de faire, de fabriquer, de faire quelque chose au sens le plus large. C'est également avoir des relations et des contacts avec les autres. C'est troisièmement découvrir, à l'occasion de son métier, découvrir, chercher, voyager, faire des découvertes, mais qui peuvent être sur son lieu de travail. Et enfin, c'est servir, c'est-à-dire être au service des autres. Bon, et ces quatre fonctions-là, on sait que, je veux dire, c'est des sources de satisfaction. Et donc, le problème, c'est d'arriver à le refaire dans des conditions de contraintes et de tension et d'intensification du travail qui soient moindres. Alors, comment faire ? Alors, comment faire ? On en discutera sûrement dans la discussion. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il faut les reconnaître. C'est-à-dire, il faut reconnaître que ces suicides sont dus en partie et d'une manière importante au travail, que ce burn-out, il a bien un lien fort avec le travail, même si la symptomatologie pathologique, etc., n'est pas claire. Idem pour la souffrance au travail. Bon, deuxièmement, il faut les traiter. Alors, les traiter au niveau individuel, bien entendu, mais au niveau général, c'est-à-dire au niveau de l'organisation du travail. Et l'expérience de France Télécom, qui s'est maintenant s'appelle Orange, a réussi en tous les cas le plus gros. Et donc, il y a un travail énorme et pour le faire reconnaître, bon, est-ce qu'il faut faire une loi, ça j'en sais rien, mais en tous les cas, on en a eu l'exemple dans le premier exposé, il y a une réticence, je veux dire, permanente, historique, qui consiste à dire non, il n'y a pas de lien de causalité entre les conditions de travail et ce qu'on observe, la souffrance au travail, etc. Il n'y en a pas. Bon, prouvez-la. Alors, les épidémiologistes, si vous voulez, ils vous disent, j'en ai discuté avec beaucoup sur la question du suicide au travail, mais non, on ne peut pas l'établir, etc. Bon. Et c'est pareil, c'est la même technique de défense qu'on a, sur les dégâts de l'amiante, des centrales nucléaires, et de tous les dégâts absolument catastrophiques que produisent des industries non contrôlées, qui sont essentiellement gérés par des logiques qui sont des logiques managériales, de profit, etc. Mais je veux dire, à chaque fois, c'est la même politique, c'est la même causalité, et on connaît la chanson. Voilà. Bien.
Reste là. Tu restes là. Bien, vous avez vu deux exposés très dynamiques, chacun de son côté, l'un essentiellement médical et reposant un certain nombre de conditions de l'entreprise malgré tout, et l'autre essentiellement ce qu'on avait voulu, basé sur l'entreprise, avec un aspect de la difficulté qu'on peut rencontrer dans l'entreprise, mais avec aussi ce qu'on a vu aussi, l'évolution de l'entreprise à certains moments, qui a permis d'améliorer les conditions de travail et de valoriser un certain nombre d'éléments, et puis un retour de machine peut-être lié à la aux conditions internationales. Donc, on n'a pas pour l'instant répondu à toutes les questions, en tout cas qui sont présentées ici. C'était quelles causes, on a vu du côté psychiatrique les causes qui étaient possibles, du côté du travail les causes possibles. Qui est menacé? On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient surinvestis un petit peu dans leur investissement dans le travail, mais pas que les conditions pouvaient jouer. On a abordé un peu le comment réagir un peu sur le sens médical et sur le sens professionnel. On aimerait maintenant savoir dans la salle quelles sont vos réactions par rapport à cette définition, par rapport au burn-out. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vécu? Certains en ont entendu parler? Est-ce que vous avez été éclairé suffisamment par les deux orateurs? Et quelles sont les questions qui vous restent ou en travers de la gorge ou simplement des questions plus générales sur l'éthique et la philosophie du travail et de la dépression? Oui.
Je viens avec le micro. C'est...
Oh non, mais... tout au fond, la bonne question. vous présentez et vous dites, bien entendu, votre question. Pas trop longue, s'il vous plaît, qu'on puisse en avoir beaucoup.
Merci, bonsoir et merci tout d'abord pour cette présentation en fait, du burn-out. Je m'appelle Emmanuel Darcy, je suis aide-soignant. Et donc j'ai été confronté plusieurs fois à des situations de stressantes en poste, en fait, soit en stage, en fait, au cours de mes stages de formation, soit au cours de mon travail d'aide-soignant en foyer d'accueil médicalisé. Et en fait, je me pose la question de savoir comment on peut mieux gérer le stress en équipe, parce que j'ai tout de même l'impression que dans la plupart des expériences que j'ai pu avoir dans les hôpitaux au cours de mes stages ou au foyer d'accueil médicalisé, qu'il manque cruellement en fait des méthodes de management permettant d'éviter des situations particulièrement stressantes au contact des malades et également au sein de l'équipe. Donc voilà, c'est par rapport aussi à la question justement de l'observatoire pour les médecins, est-ce qu'il est aussi envisagé éventuellement un observatoire pour le personnel soignant, ce qui me paraît aussi quelque part assez cohérent. Voilà.
Merci. Je vais répondre.
Merci pour vos questions. Alors, tout d'abord sur le que faire à propos du stress. Bon, il me paraît évident qu'il y a au moins deux aspects. L'aspect qu'a souligné M. Baudelot, qui est la question du management et que vous évoquez, de la qualité du management, de savoir créer les conditions d'épanouissement de la personne, et on vient de nous dire les éléments qui pouvaient être des conditions d'épanouissement de la personne dans son environnement professionnel. Ben, j'ajoute quand même que là, on n'est pas sorti du travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la question de l'épanouissement ou des difficultés d'épanouissement quand on quitte le travail. Je dirais, on a fermé les portes, on est au travail. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je dois dire que le suicide, qu'est-ce qu'on sait sur le suicide? Le suicide, toutes les lettres de suicidés, tous les témoignages de suicidants, on appelle suicidés ceux qui ont réussi, enfin, je m'amuse à dire les choses, c'est-à-dire ceux qui sont morts de suicide, et les suicidants, ceux qui, par chance, s'en sont restés à la tentative. Toutes les lettres, tous les témoignages indiquent que le geste survient à l'occasion d'une douleur insupportable, de quelque chose d'insupportable, qui évidemment peut être lié à l'environnement. Aucun psychiatre, quoi qu'on dise, ne nie ça. On sait bien qu'il y a des conditions endogènes, exogènes, etc. Donc, la chose que je voulais dire, c'est la deuxième condition. Moi, dans l'histoire de telle ou telle entreprise, quand il y a un suicide, pour moi, je m'interroge sur la qualité du suivi médical. Parce que le passage, pour moi, du désarroi à la dépression ou du désarroi au suicide, ben, c'est quelque chose qui, s'il y a un suivi individuel avec sa dimension médicale, qui doit prévenir, anticiper les choses pour la personne au niveau individuel. Alors, pardon pour cette réponse un peu longue. Sur votre deuxième remarque sur la question, il y a le Conseil de l'Ordre, j'ai dit que c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui prenait cette initiative. Sauf erreur de ma part, il y a maintenant un Conseil de l'Ordre infirmier. Malheureusement, il n'y a pas de Conseil de l'Ordre de profession d'aide-soignant à ce jour. Là, je vais avouer mon ignorance. Il devait y avoir des enquêtes qui donne des chiffres de suicide dans les professions, dans les catégories professionnelles, mais j'avoue que je ne les connais pas.
Oui, tu veux quelque chose rajouter?
Je veux dire, ce que vous dites là est parfaitement, vécu dans plein de milieux. Et en particulier, face à ces nouveaux problèmes et les difficultés générales, psychologiques que rencontrent les travailleurs, concernés, etc., il y a un désarroi fantastique autour. C'est-à-dire que les syndicats, ont mis extrêmement longtemps à comprendre enfin, et à savoir quoi faire. C'est-à-dire que ça désarçonne complètement les gens. Et on se dit, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que c'est, etc. Et il y a des politiques d'évitement, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on dit, bon, il y a des problèmes, etc., on évite et tout. Et dans l'enquête, enfin, qui a été réalisée par une entreprise sur France Télécom tout au long des événements, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'alertes. C'est-à-dire que il y avait des tas de gens qui avaient alerté leur supérieur en disant celui-là va pas bien du tout, ça va pas, et il y a rien eu de fait. Mais donc, si vous voulez, je pense que c'est assez important le fait de signaler et d'être en tous les cas extrêmement vigilant et sensible. Et après, effectivement, assurer un suivi.
Je crois qu'il faut rajouter effectivement la notion collective. Vous parliez bien notamment dans les milieux hospitaliers. On peut repérer, voir quand il y a des situations de stress, et c'est là qu'il faut en parler, soit un chef de service, si un chef de service, soit un cadre, si dans le cas, soit au médecin du travail, soit de façon à ne pas laisser stagner les situations. C'est quelque chose de très important, et là encore, ne pas laisser les gens seuls. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, la participation collective dans un trouble qui est rarement isolé, c'est pas une personne. Il faut faire très attention et surtout le remarquer et signaler que ça ne va pas.
Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Humeau et je dirige des gens en période de crise, en période de transition. Et donc, je suis confrontée beaucoup à de la détresse quand j'arrive, énormément. Donc, évidemment, l'écoute est une chose extrêmement importante et on peut manager sans... Je suis convaincue qu'un management humain existe et qu'on peut tout à fait rendre les gens heureux dans leur travail. Et quand on les rend heureux, ils sont formidables. Donc, économiquement, on s'en sort très bien. Je voulais dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de pathologies dans les entreprises actuellement. Il y a beaucoup de pervers narcissiques, il y a beaucoup de pathologies diverses et variées. Et... quand on envoie ces gens-là vers la médecine du travail ou quand on envoie quelqu'un où l'on craint qu'il soit en phase de burn-out, on a des médecins qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, qui n'ont aucune compétence en fait dans ces domaines de psychiatrie et qui vous les renvoient. Et là, on a un gros problème, nous les dirigeants, quand on est responsable, quand on se sent responsable. Et je voulais dire aussi que France Télécom... bien, il y a une action contre Lombard, mais les cadres qui ont été pervers, parce que je suis assez renseignée sur les détails de la manière dont le management a été fait, je peux dire que tout le monde aurait craqué. Il faut sanctionner. Comment se fait-il que 6 ou 7 ans après, je ne sais plus combien de ça date, mais il n'y a pas eu de sanction, ni de Lombard, ni des cadres. Donc ça aussi, c'est pour moi scandaleux.
Il y a un retard de la magistrature, mais enfin, je veux dire, il est inculpé, il y aura un procès, je veux dire, et il n'est pas seul. Enfin, je veux dire, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que la justice a déterminé tout un ensemble de responsabilités parmi le haut, les hauts dirigeants, quoi, et ils sont tous inculpés, et il va y avoir un procès.
Quand on dirige et qu'on a des cadres qui font des bêtises en mettant sous stress d'autres salariés, comme j'ai eu le cas. C'est de notre devoir de les sanctionner. Et je n'ai pas vu que dans les cadres, les N-1, N-2, N-3, il y a eu des sanctions.
À partir de votre propos, dire un mot sur la médecine du travail, qui est, comme nous le savons, qui est particulièrement sinistrée dans notre pays. Probablement, beaucoup de progrès pourraient être faits, même avec à peu près les moyens actuels, si on redonnait à la médecine du travail une mission de promotion de la santé. C'est-à-dire que si le médecin du travail avait beaucoup plus, alors c'est plus facile dans les grosses entreprises que dans les petites entreprises, quand c'est une médecine du travail inter-entreprise, c'est évidemment moins facile, mais s'il pouvait participer à côté du DRH et à côté des directions, donc à la construction des conditions, une réflexion en amont pour construire des conditions de travail qui soient les plus favorables possibles à l'épanouissement individuel. Et bon, donc, vous dites qu'ils ne savent pas quoi faire, mais ceci, renvoie. Moi, je reste au fond de moi persuadé, quelle que soit la responsabilité du responsable de France Télécom, de tel ou tel cadre pervers, narcissique, etc., moi, médecin, je reste extrêmement persuadé qu'un dépistage du franchissement du seuil d'une situation de désarroi à une situation à haut risque individuel que moi j'appelle pathologique, parce que c'est pas péjoratif, bon, c'est simplement dire qu'on est dans une situation à risque, et surtout une situation pour laquelle il y a des stratégies médicales d'aide et de réponse efficaces.
Pour compléter un peu sur ce problème-là, il faut se rappeler que le médecin du travail n'est pas un médecin de soins. C'est un médecin qui est chargé dans l'entreprise de surveiller un certain nombre de choses, de déclarer, mais il renvoie ailleurs, donc il n'est pas censé faire les soins. D'autre part, il faut considérer que ça n'est pas forcément un pompier et que les choses se préparent avant et que le rôle du médecin du travail se fait avec celui des managers, avec la direction, pour essayer de mettre en place des éléments de dépistage, de repérage et de traitement de l'entreprise, j'entends. Okay ? Donc voilà, c'est très important de voir que ce n'est pas simplement le rôle du médecin du travail.
J'ai une question, je m'appelle Olivier Lédric, je suis avocate, mais ce n'est pas à ce titre que je vais exprimer. On m'entend ? On m'entend là ? Voilà. Ce qui m'a frappé dans vos deux exposés, c'est que nous avons une logique qui est centrée sur le patient en souffrance dans le discours du professeur Ollier. Donc une logique qui aurait pu être systémique, vous auriez pu parler et du malade, et de la personne qui souffre, mais également du cadre. Parce que la personne qui vient vous voir, moi j'ai un frère qui s'est suicidé, donc je peux vous parler de ma famille, ça vous ferait rire, mais ils sont tous malades dans la famille. Donc le malade, mais bien sûr, le malade qui vient vous voir en vous disant je vais me suicider, il vient pas uniquement vous parler de lui, il vient de vous parler de son patron, il va vous parler du patron le N-15 ou le N-10, etc. Il va vous nommer les gens. Et c'est ça qui m'a frappé avec l'exposé de M. Baudelot, qui est sociologue. Vous avez parlé justement de l'environnement, des conditions de travail, au fond de l'aspect social du travail. Or, les deux, moi, je trouve que les deux sont liés. Et j'avais une question qui est liée, qui était celle de savoir si dans nos sociétés actuelles, effectivement, nous promouvons davantage de personnel, je dirais, à profil pervers, on va dire, première question. Et deuxièmement, une question qui est liée, alors ça c'est mon métier d'avocat qui effectivement me fait poser cette question, c'est que les cas de harcèlement au travail sont extrêmement fréquents dans les structures justement où le statut public fait que les gens ne peuvent pas bouger. Et je me posais la question de savoir si la problématique se posait dans les mêmes formes dans les entreprises privées, mais surtout dans d'autres sociétés où finalement la flexibilité du monde du travail, du passage d'une entreprise à une autre, sont très différentes de notre société, marché du travail français. Voilà.
Non, écoutez, pour moi, c'est implicite, évident, je ne sais pas comment le dire, que dans les causes, dans les facteurs de désarroi, et a fortiori dans les facteurs de manifestation symptomatique de nature psychique ou comportementale, c'est parfaitement évident que le facteur environnemental. Et c'est bien pour cette raison que j'ai commencé par la citation de Claude Weil, que je trouve extrêmement lumineuse, je trouve très juste, de pondération, disant, l'épuisement et les facteurs environnementaux, c'est la rencontre entre un individu et une situation et un individu. Voilà, donc pour moi, c'est tout à fait évident. Et je vais même ajouter, pour moi, dans les facteurs de difficultés de traitement et même de résistance à un traitement, il y a éventuellement le facteur environnemental. C'est-à-dire que, pour moi, alors si je me place au stade le plus simple pour moi de la complication dépressive, par exemple, il est évident que mes thérapeutiques peuvent être parfaitement entravées par le maintien du facteur de stress déclencheur. C'est évident, donc on ne peut pas... Alors, je voudrais me permettre de vous dire ma détestation du mot pervers. Ou plutôt, pardon, mon affection pour le mot pervers. Parce que j'ai toujours rencontré des pervers le samedi soir, j'ai aimé éventuellement. Dans ma vie professionnelle, je n'en ai pas rencontré. Je veux dire que c'est, je ne sais pas ce que c'est le pervers. On ne sait pas ce que c'est le pervers. Il y a une définition psychanalytique, mais je veux dire, mais le bon, donc, enfin, je veux dire, alors effectivement, il y a des gens qui se comportent mal, et il y a des managers qui se comportent de manière destructrice à l'endroit des personnes avec qui ils travaillent. Il y en a peut-être qui arrivent à en jouir, alors c'est peut-être à cela que vous pensez en disant le mot pervers, mais moi je peux aller un peu plus avant, et peut-être nous pourrions tous les deux nous interroger sur ce qu'il y a de souffrance chez ces gens pour qu'ils adoptent un tel comportement. Et pour que finalement ils se ferment les yeux ou ils trouvent ce piètre plaisir à voir souffrir les autres, ou mettre les autres en difficulté.
Un mot simplement pour rappeler que, bien que la différence soit pas toujours facile à faire, le terme de harcèlement est théoriquement puni par la loi et correspond à une définition un peu particulière. Le burn-out étant, alors, le harcèlement peut favoriser éventuellement le burn-out, etc. Probablement, mais ça n'est pas la même chose quand même en théorie, au moins sur le plan de la justice.
Oui, j'avais des remarques et des questions en tant que citoyenne et ayant vu des personnes très mal en point, on va dire. Alors là, vous me faites réagir, monsieur le professeur Ollier, vous voudriez mettre en route des consultations spéciales pour harceleurs graves. C'est ça que vous voulez dire, il faudrait les prendre en charge eux-mêmes, ceux qui font du mal, c'est ça? Vous pensez à ça? Comment? Comme pour les
viols. L'hypothèse ne me choque pas.
Eh ben parfait. Sinon, vu que ici c'était un endroit jésuite, je voulais, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est que Lehmann, qui était né en Allemagne et qui avait fait son travail en Suède, en fait, avait enquêté auprès des prêtres qui avaient enterré des personnes suicidées. Et il avait fait une démarche tout à fait originale en allant rencontrer la famille et les prêtres, savoir s'ils avaient une information concernant le contexte de survenue du suicide. Et c'est là qu'il a détecté de façon intime, puisque le prêtre était le confident. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire émerger cette fréquence élevée en fait de suicide à des conditions de travail auxquelles on n'avait pas pensé apparemment. Et sinon, quant au terme de solution, là, vous proposez de former des médecins du travail différemment, ou alors est-ce qu'il faudrait créer des médiateurs, entre guillemets, qui soient des alerteurs, sentinelles? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous proposez en pratique?
Sur les médecins du travail, simplement, bon, je ne veux pas l'outrecuidance de dire comment il faut les former. Par contre, la mission de promotion de la santé au sein de l'entreprise, et y compris de la santé mentale, retienne l'attention des médecins du travail, et que les propositions du médecin du travail, de la médecine du travail, retiennent l'attention des dirigeants, parce que évidemment sans ça serait vain. Moi je voterai volontiers un manifeste à cette faveur, oui.
Enfin, moi, je voudrais dire deux choses. Je veux dire, en même temps, en répondant aussi à votre question, c'est-à-dire et à la vôtre, puis une autre chose particulièrement à vous. Ce qui est extraordinairement frappant actuellement, c'est l'affaissement et le délitement du lien social. C'est-à-dire que, je veux dire, les individus sont de plus en plus seuls et solitaires avec eux-mêmes, et l'existence de collectifs, je veux dire, de soutien, de travail, sur lesquels on peut avec lesquels on peut discuter, qui peuvent établir des rapports de force avec, d'autres groupes, etc., tend énormément à se dissoudre. Et ça, c'est un fait. Et en même temps, toutes les nouvelles technologies y contribuent. Hein, c'est-à-dire qu'on est seul devant, on cherche son courrier électronique, on est seul. Enfin, je veux dire, ce sont des techniques qui désocialisent, enfin pas qui désocialisent, qui resocialisent autrement. Mais en tous les cas, devant ce genre de choses-là, on est totalement seul. Alors, ce qui est absolument certain, et on le voit partout, et au niveau des hôpitaux en particulier, il y a une absence extraordinairement forte d'écoute. Et il y a des professions dont l'essentiel du métier consiste à l'écoute. C'est tout ce qui ressort de la psychologie, les psychologues. Bon. Or, on voit, dans les hôpitaux et par exemple dans les services de maladies chroniques qui sont extrêmement lourdes, invalidantes, on a pour toute la vie, etc. Bon, les gens ont besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute. Bon, il n'y en a pas. Dans les grands hôpitaux, il y a des services extrêmement performants dans tout un ensemble de domaines, la greffe en particulier, il y en a un tout à côté dans la même rue Necker, et bien dans le service de transplantation qui est le premier du monde, on n'a pas une psychologue. Or, ces choses sont lourdes. Et donc là, et il y a des chômeurs en même temps, et que les psychologues trouvent pas de boulot. Et là, il y aurait, la possibilité, de placer plus de psychologues dans des endroits sensibles. Il y aurait déjà beaucoup de choses qui pourraient être, en tous les cas, à la fois l'alerte, etc. Bon. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et idem, si vous voulez, pour les sociologues, les sciences sociales, etc., je pense qu'ils sont mal utilisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi très utiles en tant qu'écoute et d'analyse des relations, des rapports, etc. Ils peuvent être très, très performants pour un peu transformer les relations sociales. Bon, et les psychologues, c'est absolument évident. Alors, je ne dis pas ça parce que ma femme est psychologue. Mais elle est à la retraite, donc...
Je crois qu'il fait un plaidoyer pour Domo, là. Moi, je suis pas d'accord, là. Pas du tout. Parce que... alors, je suis d'accord sur le problème du lien social. Je faisais allusion à ça tout à l'heure en disant, en dehors du monde du travail même, dans notre environnement social. Et je suis totalement d'accord sur... le trop souvent grave déficit d'écoute dans les hôpitaux. Je suis d'accord. Là où je trouve que les choses sont beaucoup moins simples que vous ne semblez le penser, c'est quand vous dites que il faut mettre des psychologues. Moi, je trouve ça très périlleux. Je trouve ça très périlleux parce que moi, si je vais à l'hôpital, j'attends la possibilité de parler avec le transplanteur. J'attends pas qu'il me dise « je t'envoie une psychologue, tu vois un psychologue, tu vas te débrouiller avec elle ou avec lui ». Et là, la tendance, elle est très grande. Elle est très, très grande. Et je regarde mes amis somaticiens dans la salle, et très volontiers, ils disent « allez voir le psychiatre ou allez voir le psychologue », tout comme le psychiatre ou le psychologue reste les mains dans les poches et dit « allez voir le somaticien ». Je veux dire que ce clivage psychique-somatique... Moi, je crains qu'on le renforce, et de manière regrettable, si on se contente de dire qu'il faut des psychologues. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit, je vous rassure.
Alors, justement, bonjour, je suis Marie-Benoît Beaupère, je suis psychologue du travail. Donc, je voulais, puisqu'on a parlé quand même de souffrance psychique, je voudrais quand même insister sur la dimension de la prévention. À différents niveaux. D'abord au niveau de l'entreprise, parce que le premier acteur de soins et de santé au travail, c'est le salarié lui-même, qui a des instances aussi qui sont présentes. Vous avez nommé la médecine du travail, mais il y a du collectif avec les représentants du personnel. Alors bien ou mal, dans tous les métiers, dans toutes les représentations, il y a des gens qui font plus ou moins bien leur travail, mais enfin je pense que renvoyer au collectif, c'est important. Mais en termes de prévention, je voudrais quand même apporter une précision. J'ai eu affaire à pas mal de médecins généralistes, notamment qui m'avaient demandé de les aider, des associations justement, à être sensibilisés à toutes les problématiques professionnelles, parce que les trois quarts des salariés ne sont pas au courant ou savent, mais n'arrivent pas à identifier leurs difficultés, leurs symptômes, et qui se tournent vers la sphère privée, généralement, ils vont voir leur médecin de famille, les médecins généralistes dans lesquels ils ont confiance, et souvent ils ont raison, sauf que les médecins généralistes ne sont pas formés, très souvent, aux problématiques du travail. Donc ils se retrouvent démunis. Et je pense que là, il y aurait un véritable travail à faire en leur direction, pour les aider, pour les soutenir, et pour ne pas les mettre en difficulté aussi, parce que si on leur demande des arrêts de travail et qu'ils n'arrivent pas ou qu'ils ne le souhaitent pas et qu'ils n'ont pas à décrire ouvertement un lien avec les problématiques de travail, je pense que là, ils auraient besoin effectivement d'être soutenus, formés, tout comme les managers d'ailleurs. Hein. Donc voilà ce que je voulais ajouter. La dimension de prévention, inter-entreprise, intra-entreprise, directement auprès des salariés, mais aussi de tout le personnel accompagnant, pour moi, permettrait vraiment d'anticiper et de diminuer les risques que l'on rencontre dans le cadre du travail.
Je vous remercie, Madame Dedi, de rappeler quand même que le premier acteur de la santé, c'est notre santé, c'est soi-même. Vous avez raison. Alors, sur le, moi, je suis comme le médecin généraliste. Quand je vois quelqu'un, je suis pas un spécialiste du milieu professionnel, comme vous l'êtes. Et bon, néanmoins, alors moi j'ai envie d'ajouter, de surcroît, le médecin généraliste n'est pas nécessairement un spécialiste des troubles psychiques. Et donc la difficulté peut-être, mais il a quand même un avantage, le médecin généraliste, hein, c'est qu'il le médecin généraliste traditionnel, hein, celui que ma mère aurait voulu que je sois, hein, c'est d'être dans la continuité, de connaître l'environnement souvent, et donc de pouvoir repérer des modifications qui ont éventuelle valeur d'alerte. Donc, il n'est pas totipotent, totisachant, mais il a quand même des cartes dans ses mains, effectivement, quand même, il me semble.
Je voudrais aller un peu dans le même sens. Il faut faire attention, on demande toujours au généraliste de tout faire. On lui demande de dépister l'alcool, de dépister le tabac, de s'occuper, pour moi, des prélèvements d'organes, d'informer les gens, etc. Il ne peut pas tout faire et il ne peut pas, en plus, être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Par contre, ce qu'on vient de dire à l'instant, je pense que c'est un élément d'alerte important. Il connaît les gens et là, il peut effectivement s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Poser des questions et éventuellement, à ce moment-là, diriger ou organiser ou prévenir l'entreprise s'il se passe quelque chose. Mais ne pas lui demander quand même de tout savoir dans tous les domaines, c'est pas possible. Même si certains le font. Hein.
Jean Guinepin, je suis médecin du travail à la retraite depuis 2 ans. Oui, à la retraite et contraint et forcé de prendre ma retraite. Parce que vous imaginez bien qu'on se situe dans une lutte de pouvoir. Et dans la lutte de pouvoir, on est soutenu par personne, y compris par le gouvernement, vous savez très bien de quel côté la balance penche, et la nouvelle loi de santé au travail organise la disparition des médecins du travail. Alors on peut parler d'ailleurs, quand ils ne seront plus là, on verra bien qu'il y aura un manque. Ils sont beaucoup plus compétents qu'on le dit. Et justement derrière, comment sont-ils soutenus? Et derrière, quand ils portent un avis, l'employeur doit suivre cet avis et dire pourquoi il ne le suit pas. Vous voyez bien que pour aller vite, le médecin du travail est un gêneur et sa disparition est programmée et organisée depuis longtemps. D'ailleurs, dans la nouvelle loi qui va paraître, les salariés n'auront plus accès au médecin du travail. Je dis, je ferme là. Et d'autre part, et ça, personne n'en parle. Et deuxièmement, il y avait en 2015 à Paris 5, 90 médecins qui voulaient devenir médecins du travail. Et malgré tout le devoir de confraternité que j'ai avec tous les médecins, il y a la faculté de médecine à limiter à 20 médecins capables de devenir médecins du travail, il y en a encore, et éliminer tous les autres. Là aussi, rapport de force, et on dit il n'y a plus de médecins du travail. Il y en a beaucoup, ils sont fort compétents, mais on leur met, ils ont une pression terrible à vivre, et moi j'ai encore un bleu tellement je suis parti justement vite du travail, alors que je voulais rester travailler jusqu'à 70 ans, il n'y en a plus.
J'espère, monsieur, que vous n'avez pas entendu dans mon propos une mise en cause des compétences du médecin du travail. Hein. Je disais qu'il fallait Et je crois comprendre, et comme le disait Madame psychologue dans le milieu du travail, l'importance du rôle de la prévention. Et tout à l'heure, quelqu'un posait la question du lanceur d'alerte, le médecin du travail, effectivement. Mais comme vous le dites, bon, il y a la question de comment c'est reçu par la direction et quelle place on lui donne. Alors, sur l'histoire du nombre de postes à Paris 5, je pense qu'il faut que vous vous tourniez vers Jean-Noël Fissinger pour qu'il vous réponde. Je ne sais pas pourquoi vous avez supprimé comme ça 70 postes de...
Oui, c'est-à-dire, je veux pas parler à votre place parce que vous connaissez votre métier beaucoup mieux que moi, mais enfin, je veux dire, je pense que les personnels, enfin, psychologues du travail, médecins du travail, je veux dire, sont affrontés toujours, je veux dire, à des pressions énormes de la part des directions, et que, je veux dire, les latitudes justement décisionnelles au sens où l'entend des Karasek sont réduites de plus en plus. Et là, je veux dire, ce sont des problèmes importants parce que, je veux dire, il est extraordinairement important que partout dans la société, dans les entreprises comme ailleurs, il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Bon, et effectivement, je veux dire, les contre-pouvoirs attribués à la médecine du travail, enfin, je confirme entièrement votre diagnostic pour, enfin, votre analyse personnelle sur la situation générale des médecins du travail. À chaque fois, je veux dire, on les accuse de faire le jeu des salariés, quoi. Enfin, je veux dire, et d'aller écouter les moindres plaintes, etc. Alors qu'il y a des problèmes, je veux dire, énormes dans les entreprises. Et là aussi, je veux dire, les médecins du travail, les psychologues du travail peuvent jouer un rôle extrêmement utile de lanceur d'alerte et d'écoute. Enfin, je veux dire, avant l'alerte même, hein, je veux dire, l'écoute est quelque chose de fondamental parce que quelqu'un qui a vraiment des problèmes, qui soit en désarroi, en difficulté, etc., et la possibilité d'aller parler, je veux dire, à quelqu'un qui l'écoute, qui connaît la question, etc., c'est déjà extrêmement important. Bon, et ça, je veux dire, c'est une fonction absolument capitale. Et c'est pour ça que j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, mais moi, je maintiens le fait qu'il est extrêmement important que des corps, je veux dire, intermédiaires, enfin, et indépendants, comme la médecine du travail, la psychologie, etc., soit dans les entreprises ou autour, enfin, de manière comme des recours extrêmement utiles.
Yves Petiton, je suis médecin dans un établissement médico-social. Je voudrais revenir sur la dimension de la prévention au croisement à la fois des personnes, des personnes en responsabilité, mais aussi des collègues. Dans l'établissement où je travaille, 70 adultes au service de 110 enfants, l'an dernier, il y a eu 2 départs en dépression. Et puis, une démission juste au moment de la rentrée, en septembre. La lecture d'un des cadres était de dire « c'est son problème personnel ». Il a fallu batailler en réunion de début d'année pour faire entendre que c'était quand même la troisième et qu'il fallait entendre que certes, il y avait des dimensions personnelles, mais qu'il y avait peut-être aussi une dynamique collective qu'il fallait réinterroger. Et quand on reprend cette question de dynamique collective, c'est qu'en fait, il y a eu un changement de direction et qu'au fond, nous sommes en panne de projet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la génération qui portait le projet d'établissement précédemment et qu'on a eu un turnover en fait de personnel assez important et qui se poursuit encore actuellement. Et derrière, c'est toute la question de comment travailler une dynamique de projet à la fois en interne, mais aussi dans l'horizon que vous indiquiez, qui est dans une société qui est en panne de projet. Et que je crois que c'est pas par hasard aussi que c'est en 2015 qu'a cristallisé ces difficultés-là. Et donc c'est pour dire comment effectivement prendre en compte ces différents facteurs et comment, comme collègue de travail, on peut être en alerte à la fois sur les personnes, mais aussi sur cette dynamique collective et être acteur de cette dynamique collective. Et que c'est complexe et que ça relève aussi de notre responsabilité collective sur cette situation de manque d'espérance collective, pas simplement dans telle ou telle société. Que je crois qu'il faut pouvoir mettre en perspective ces différents éléments-là.
Je m'interrogeais un petit peu en fait, bon, c'est sur le suicide, donc la question du management, c'est certain, en entreprise ou qu'il soit par rapport aux personnes. Et en même temps, par rapport au burn-out, la question de quoi mettre en face à l'épuisement. C'est-à-dire qu'il y a épuisement, alors il y a sans doute une part de responsabilité liée au management, puis il y a aussi l'épuisement de la personne elle-même, parce que par rapport aux besoins de reconnaissance, à la recherche, aux responsabilités du poste, elle ressent un certain nombre de choses et elle peut perdre l'estime d'elle-même. Et du coup, de la perte de l'estime d'elle-même, eh bien, elle ressent un épuisement. Elle ne va pas forcément le dire parce qu'elle doit en plus répondre à un certain nombre de critères de réussite professionnelle dans laquelle elle peut s'être inscrite à la fois par épanouissement, plaisir, sens des responsabilités, exigence de chef plus un, plus deux, plus ou moins bienveillant ou pas, et des fois bienveillant. Et mais simplement, il y a un certain nombre de contraintes qui font que la personne s'engage amplement et qu'elle donne beaucoup d'elle-même. Alors, et même quand il y a éventuellement reconnaissance, il peut y avoir épuisement et burn-out. Alors ça, c'est l'autre aspect. Et puis alors, la troisième chose, c'est quoi de l'entreprise en tant que dépositaire de cette souffrance? C'est-à-dire que dans l'après, quand il y a suicide, oui, dans quel sens elle peut être engagée dans sa responsabilité et comment, quelle part elle peut avoir finalement à la mission finalement de comprendre ce qui s'est passé et quelles ressources elle pourra avoir pour des possibles à mettre en place après. Alors dans les possibles, eh bien certains ont évoqué quoi mettre en place face à l'épuisement. Ben il y a l'écoute, oui. Hein, je pense que c'est important et elle ne passe pas que par le médecin du travail. Alors pourquoi je pense à mon avis qu'elle ne passe pas que par le médecin du travail? Tout simplement parce que face à son médecin de famille ou à son médecin du travail, on ne dit pas forcément tout. Et qu'en plus, quand on est face à ce qu'on pourrait appeler la crise suicidaire, hein, après les différentes étapes, un petit peu de l'évolution et du suicide, et ben dans la crise suicidaire, la personne, eh bien, comment vous dire, elle a un certain nombre de risques, elle présente un certain nombre de risques, tout ça va aller en évoluant, elle va avancer dans le temps dans la souffrance. Et puis, elle va décider d'un certain nombre de modes opératoires. Puis en plus, quand elle va les décider, ben, ça ne va pas forcément se voir parce que d'autres choses passeront dans la réalité de sa vie quotidienne chez elle et puis dans la réalité de sa vie quotidienne au travail et dans ce qu'elle met en priorité dans une forme de personnage à toujours tenir et non plus, c'est plus de sa personne, mais de son personnage au travail. Et donc, de la façon dont elle va, si vous voulez... finalement faire face hein, toujours à ce qui lui est demandé de faire et à ce qu'elle a toujours envie de faire et ce pourquoi elle est payée pour faire hein, et au-delà des commandes. Et donc en fait, à partir de là, si vous voulez, par rapport à cette souffrance, quand elle va avoir enfin retenu en plus le suicide comme possible pour sortir de sa souffrance, eh ben, en général, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va relâcher, elle va être mieux. Et même tout son entourage va l'avoir mieux. Donc même si elle va d'abord occasionnellement chez le médecin du travail, je me demande comment occasionnellement il pourrait réellement voir cela. Et la deuxième chose, si vous voulez, même si elle va régulièrement chez son généraliste, elle ne dira pas tout, elle ne montrera pas tout. Libérer la parole pour ça, c'est vraiment propre à chacun. Ça ne se fait pas et il faut, à mon avis, se rappeler d'une chose, c'est que la personne, on ne peut pas l'obliger et il y a des choses qui se passent. Et ça peut se passer chez des personnes qui n'ont pas non plus de syndrome dépressif ou de choses à tordre. Alors, dans les autres propositions, il y a aussi aujourd'hui les réflexions d'espaces de ressourcement hein, au sein des entreprises qui peuvent être des lieux à la fois où on peut mettre des écoutants et à la fois où on peut proposer des possibilités de ressources et donc pour permettre aux personnes elles-mêmes de retrouver personnellement, plus profondément même, un sens hein, et un sens autre.
Je voilà. Un peu parce que sinon on va pas...
Il y a vraiment une question, si vous voulez, de réflexion sur ce qui peut être mis en place, effectivement, donc de l'ordre de la prévention, mais qui ne passe peut-être pas forcément que par les structures qui existaient avant, qui existaient déjà ou qui ont été enlevées, qui sont peut-être à remettre, mais pas seules.
D'accord. Merci beaucoup.
Moi, je crois, merci madame. Moi, je crois, votre intervention et celle du monsieur juste devant vous auparavant, au fond, moi ça m'inspire trois remarques qui nous mettent en question chacun individuellement, je trouve, et notre société. Premièrement, je crois que nous partageons tous le constat d'une grande fragilité du lien social, pour ne pas dire une détérioration du lien social. Et ça, je pense que j'ai réagi tout à l'heure à l'idée de la psychologue ou du psychologue qui allait, parce que je pense qu'on ne peut pas sous-traiter ça. Je pense que ça interroge chacun dans l'environnement où nous sommes. La deuxième chose, l'environnement où nous sommes, le hasard fait que aujourd'hui, dans la presse, je lis que l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale considèrent qu'il faut attentivement se pencher sur la question de la santé mentale. Motif d'une telle alerte, 1 euro investi rapporterait 4 euros. C'est dérisoire. c'est atterrant comme motivation. C'est un euro va rapporter 4 euros. C'est nous, ça, hein, c'est notre société. La troisième remarque, c'est la définition de la santé de l'OMS, proprement folle. La santé, c'est un état de bien-être physique, excusez du peu, mental, excusez du très peu, et social. Il ne manquait plus que ça. Je veux dire que... Complet. Je veux dire que, alors que nous savons bien que, quand même, la santé, c'est un équilibre précaire que chacun de nous essaie de maintenir à chaque seconde de sa vie, en particulier la santé mentale et la santé du point de vue social. Et donc, c'est symptomatique, quand même, que l'OMS... Alors, je veux le prendre positivement. C'est symptomatique d'un niveau d'exigence très élevé de notre part. Et nous avons raison d'avoir ce niveau d'exigence. Mais ne l'attendons pas des autres. Donnons-nous les moyens de l'atteindre. Et moi, tout à l'heure, je disais que je ne serais pas choqué. Je pense que si tel ou tel d'entre nous dysfonctionne ou ne fonctionne pas suffisamment bien, quelle que soit sa position dans l'organisation professionnelle ou sociale, eh bien effectivement, il faut mettre en place des conditions de le remettre le mieux possible sur un meilleur chemin. Mais voilà, faisons un examen. Et tout à l'heure, je me félicitais de quelqu'un qui disait le travailleur, le salarié est le premier acteur de sa santé. Je veux dire, je le prends pour moi et il faut que nous le prenions pour nous. Et je pense que la société dans laquelle nous sommes, il y a tous ces aspects. Notre niveau d'exigence est élevé. Nous avons raison, une fois encore. Je ne le conteste pas, mais il ne faut pas l'attendre des autres. Cette altération ou cette fragilisation du lien social, nous avons raison de lutter contre ça. Mais il ne faut pas l'attendre des autres. C'est à chacun d'y travailler. Et les psys divers et variés, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Et les sociologues aussi, je suppose.
Madeleine Corr, psychologue à la retraite. J'ai mis en place des équipes de psychologues pour accompagner les travailleurs au chômage. C'est une catégorie dont il n'a pas du tout été question ce soir. Et j'ai pu constater dans l'accompagnement qui est fait par mon équipe à quel point, on va dire, les effets et les conséquences du burn-out et de la dépression dans le monde du travail amène ces personnes à devenir des chômeurs, c'est-à-dire que la solution qui est trouvée par l'entreprise, en général, c'est un licenciement, ça on n'en a pas parlé, et c'est également une démission. Voilà. Et les personnes se retrouvent travailleurs, chercheurs d'emploi. Il faut aussi savoir que pour cette catégorie de travailleurs, au chômage, il n'y a pas de médecin du travail pour les chômeurs. C'est plus un constat que je fais pour porter la discussion de façon un peu plus élargie.
J'ai cité l'insécurité hein, quand même dans les facteurs.
Le rôle du management, pour l'instant, est terminé. Je pense qu'il va être possible.
Daniel Viard, ingénieur. On a beaucoup parlé de mieux comprendre comment on arrive à l'état du burn-out. Je voulais vous demander si on pourrait parler de la sortie du burn-out. On a parlé de 30 000 personnes en burn-out. Est-ce que ces 30 000 vont rester en burn-out ou est-ce qu'il va y avoir pas mal de sorties dans le bon sens? Enfin, comment est-ce qu'on s'en sort finalement de ce burn-out? Et est-ce qu'on peut s'en sortir et comment on s'en sort?
Pour moi, probablement, il y aurait d'autres réponses. Mais bon, moi, je veux dire, comment se sort-on d'une situation de désarroi, de détresse? On a cité les réaménagements, lorsqu'ils sont possibles, hein, dans l'entreprise, si on se place dans le cadre du travail, avec l'utilisation éventuelle des ressources internes à l'entreprise. On a évoqué l'écoute. Tout à l'heure, on a évoqué aussi le fait qu'au-delà de l'entreprise, il peut y avoir des éléments de soutien qui sont importants. Et dans ce que je vous ai dit que les classifications ne reconnaissaient pas le burn-out proprement dit, mais je vous ai montré qu'elles retiennent le fait que le médecin peut être sollicité pour des problèmes liés au travail ou pour des situations de stress liées au travail. Et il est évidemment de la mission du médecin de répondre, d'essayer d'aider ces situations de détresse. Mais mon message, moi, il est que là, la réponse du médecin, elle est une réponse moins spécifiquement médicale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas médicamenteuse, par exemple. Elle ne peut pas être médicamenteuse. Ou alors à la marge. Elle doit être beaucoup plus d'empathie, d'accompagnement, de soutien psychologique, de conseils si faire se peut, mais on a souligné les limites de nos connaissances sur le monde du travail, bien souvent. Et donc, voilà. Alors, votre question, je la prendrai en négatif. C'est-à-dire, quel est le pourcentage de gens qui passent du burn-out à une des complications que j'ai citées? Mais vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas.
On peut compléter si vous voulez, je crois, mais on va peut-être l'aborder dans le cadre de l'entreprise. Je pense qu'il y a une grosse responsabilité aussi de prise en charge collective au sein de l'entreprise, notamment ne pas montrer du doigt ces personnes en disant oui, il s'arrête, il ne peut plus, etc. Donc il y a toute une organisation là au sein de l'entreprise qui doit permettre la réintégration et non pas l'exclusion. Alors, ça fait partie de l'ensemble des éléments.
C'est douloureux, l'exclusion. Tout à fait.
Voilà.
Oui, bonjour. Je m'occupe du handicap et du maintien en emploi dans une grande entreprise. Et j'avais une question. Moi, je trouve que les jeunes personnes qu'on intègre dans l'entreprise, me semble-t-il, sont de plus en plus fragiles. Et aujourd'hui, on constate que, effectivement, les cas de dépression et de burn-out, finalement, arrivent assez tôt. Et la question que je me posais, c'est est-ce que, finalement, la société prépare bien tous ces jeunes à rentrer dans ce monde du travail que l'on sait aujourd'hui difficile et complexe? Et ce, depuis, pour reprendre votre date, 1975, premier choc pétrolier. Voilà. Et donc, je me pose aussi cette question, indépendamment de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui, si finalement on fait bien ce qu'il faut sur la colonne vertébrale de nos jeunes pour qu'ils arrivent armés et équilibrés pour résister à ce monde effectivement un peu difficile. Merci.
Alors, je suis assez d'accord avec votre constat, c'est-à-dire que effectivement, c'est très difficile. Bon. Et d'autant que les jeunes sont aujourd'hui, enfin, le taux de chômage des jeunes est le plus élevé qui soit dans toutes les catégories d'âge, etc. Et d'autre part, l'école ne fait pas tout ce qu'il faut non plus. C'est-à-dire que la préparation au métier, etc., est tout à fait insuffisante et c'est très compliqué puisque on ne sait pas quel métier. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude complète sur la demande et entre la demande et l'offre. Alors, en même temps, je pense que c'est vrai ce que vous dites. Mais en même temps aussi, moi, ce que j'observe, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, on a fait pas mal d'enquêtes dessus, etc., ils ressemblent pas du tout aux jeunes d'hier ou d'avant-hier. C'est-à-dire qu'ils ont, d'une certaine façon, intégré la nouvelle donne. Et pour eux, obtenir un emploi du temps, un emploi à vie, enfin un CDI sur lequel ils resteront tout le temps, enfin ils ont intégré que c'était absolument plus possible et ils font autre chose et ils développent d'autres formes, je veux dire d'existence. Ils privilégient beaucoup plus l'instant, je veux dire les fêtes, je veux dire ils ont une vision du monde et des pratiques complètement différentes, si bien que il n'est pas du tout impossible que ce que vous observez dans votre métier en les voyant, là, en montrant qu'ils sont désadaptés par rapport à l'emploi, c'est tout à fait possible, mais qu'en même temps, ils ont tout à fait d'autres ressources. Et les situations et les conjonctures finissent par former, je veux dire, différemment enfin, si vous voulez, aujourd'hui, les gens de nos générations, enfin, qui avons connu le plein emploi tout le temps, etc., on est surpris de ce qu'on peut appeler la résilience des jeunes avec tout ce qui les attend. et en particulier la question des retraites. Bon, eh ben ils s'en foutent actuellement. Enfin, je veux dire, non, mais je veux dire, c'est une autre philosophie, de la vie, et d'une certaine façon, ils y arrivent aussi, je veux dire. Mais en ce qui concerne l'adaptation à l'emploi, c'est certainement, d'abord, il y en a pas beaucoup, et ensuite, il y a une compétition extrêmement forte, et les emplois qu'on leur propose, c'est aussi important. Je ne sais pas exactement dans quel secteur d'emploi, je veux dire, auquel vous les préparez, vous les recevez, mais je veux dire, c'est vraiment des boulots qui sont pas du tout gratifiants ni intéressants. Donc, on peut comprendre aussi qu'ils n'aient pas tellement envie d'y aller. Enfin, ce serait ma réaction.
Je dirais deux choses rapidement. Premièrement, toutes les enquêtes ne révèlent pas une augmentation du nombre de grandes pathologies psychiatriques, telles que les dépressions. Apparemment, c'est stable. Par contre, vous observez des situations que vous qualifiez de fragilité, que je qualifie de désarroi, et donc de vulnérabilité, mais jusqu'à preuve du contraire, si je puis dire, pour l'instant, il n'y a pas une élévation de l'incidence des dépressions, des troubles anxieux. Mais je reviens au niveau d'exigence qui est le nôtre, et quand on dit que les jeunes ont intérêt qu'ils n'auront pas de CDI, ce qui se passe ces jours-ci du côté de la place de la République pourrait contredire cette assertion. Moi, j'ai le sentiment plutôt que le monde que nous proposons aux jeunes les conduit à ne pas envisager de rester dans la même entreprise toute leur vie. Ils vont pas être des Michelin, ils vont pas être des je ne sais pas quoi. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont comme ça dans cet esprit, probablement en fonction du monde que nous leur proposons.
Moi, je voulais peut-être témoigner de l'accompagnement que je fais auprès de personnes en recherche d'emploi dans une association, et dans laquelle nous voyons de plus en plus de personnes qui ont fait un burn-out, qui sont très jeunes, qui ont entre 30 et, à peu près une trentaine d'années, et donner peut-être une vision un petit peu plus optimiste en disant qu'en les accompagnant, en les écoutant beaucoup, en passant beaucoup de temps avec eux, on arrive à, après leur phase d'effondrement, de culpabilité, de perte d'estime d'elles-mêmes, de révolte évidemment, on arrive à une phase de remise en question de leur premier choix et une remise en question ou une recherche plutôt de ce qu'ils cherchent vraiment, et souvent ils trouvent leur vraie vocation, et on a de très belles histoires de personnes qui sortent de leur burn-out dans un état de résilience, puisqu'on appelle ça comme ça, et qui ont ensuite une carrière qui les satisfait vraiment. Voilà.
Écoutez, ça pourrait... Le temps. Alors, il y a plein de questions, mais je suis le gardien des horaires, donc si vous acceptez... Enfin, je sais pas. C'est très frustrant, évidemment. Bon, on peut faire une entorse, mais alors à ce moment-là, il faut poser votre question en 2 minutes, en 1 minute, et puis on fait après toute une petite remarque et je conclue pour respecter les horaires, que vous puissiez vous reposer, trouver un rythme de sommeil correct et ne pas faire de burn-out à cause d'un débat au Centre Sèvres. Ce serait vraiment très mauvais.
Je ne sais pas si ça marche. Oui, bonsoir. Je suis en expertise droit social dans une entreprise. Et donc, on est tous quand même très préoccupés par la santé et la sécurité des salariés dans l'entreprise. Et j'avais juste une observation sur les jeunes en se disant que je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, je pense qu'on a vu l'entreprise, le monde du travail évoluer, notamment avec toutes les nouvelles technologies dont vous avez parlé. Donc, on est aussi sur un rapport du temps qui n'est pas le même, ce qui fait que ça vient vraiment changer, accélérer les choses, les mails. Enfin, on s'en rend tous compte combien de mails on reçoit par jour, comment est-ce qu'on peut produire et dans un milieu assez compliqué. Mais tout ça pour dire que je suis plutôt optimiste sur les jeunes qui viennent, puisque cette génération Z, à mon avis, elle est beaucoup plus préparée que nous. Donc,
voilà, on peut vous...
Et ma question, c'était juste, en effet, on parle beaucoup du burn-out, mais qu'en est-il du bore-out, puisque c'est aussi une notion qu'on découvre aujourd'hui, et on voit des salariés, en effet, s'épuiser professionnellement, et d'autres salariés qui, au contraire, souffrent d'un ennui professionnel. Donc, on est sur des contrastes énormes. Est-ce que vous êtes confrontés au bore-out?
Bon, eh bien, ce sera la dernière question, et je conclue juste après. Donc, une minute, vous répondez en 30 secondes.
Pardonnez-moi, hein, c'est le défaut de stimulation, tout comme l'excès de stimulation dans le cadre professionnel, sont tout à fait connus comme des facteurs de stress, comme des facteurs de difficulté. Et donc, le burn-out, effectivement, le mot est nouveau pour, est assez nouveau pour moi, en tout cas, mais le phénomène, lui, est effectivement parfaitement établi.
Voilà. Écoutez, je voudrais vous remercier pour ce débat. Il y a une manière de résister au burn-out aussi, c'est de fortifier les résistances de chacun. On en a parlé, des résistances de pensée, ça peut être par la philosophie, ça peut être par des croyances, par la conviction, par la théologie, se fortifier mutuellement dans le débat, c'est parce qu'il y en a qui sont sur la place de la République, peut-être j'espère qu'ils se fortifient dans le débat, mais une manière de résister, c'est de se fortifier intérieurement, il y a de la belle image de la colonne vertébrale, en tout cas c'est ce que nous tentons de faire ici par les débats que nous organisons, donc si ça vous intéresse pour la suite, vous laissez vos coordonnées par mail à la sortie, je crois qu'il y a des petites fiches qui sont prévues, pour continuer à débattre, se fortifier mutuellement dans l'intelligence, le diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui, les grandes tendances, les grands idéaux, pouvoir les critiquer aussi, pouvoir se poser aussi soi-même, s'affirmer, résister, on pourrait dire au bon sens du terme, pour affirmer d'autres valeurs. Et je pense que plus que jamais, le débat contradictoire, on a eu quelques beaux exemples là, le débat contradictoire est vraiment de plus en plus important. Nous n'avons fait qu'aborder quelques petits aspects du problème, il y en aurait beaucoup d'autres. Mais écoutez, on ne peut pas tout faire, mais rendez-vous dans les prochains épisodes pour continuer à réfléchir sur la médecine, ses enjeux, la bioéthique et les grands enjeux sociaux, les grands idéaux sociaux que nous menons, que nous alimentons ou non. Voilà, ce sera mon mot de conclusion. Et je crois qu'il y a des petites urnes, si vous voulez soutenir ce genre de conférence, à votre libre bon cœur.